Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Imaginez des policiers à l'entrée des lycées pour en assurer la sécurité. Eh bien c'est ce qui se passe ce matin à Bron, où un lycéen de 15 ans est entre la vie et la mort depuis hier, depuis qu'il a été poignardé près de son établissement scolaire. RMC est en direct sur place ce matin. Vous verrez que la sécurité et la question des alliances à gauche est au cœur de la campagne des municipales à Lyon, 10 jours maintenant après la mort du militant nationaliste Quentin Derenque. Et on va retourner dans ce journal sur RMC, sur le front, en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on est 4 ans jour pour jour ce matin après le début de la guerre.
Des policiers sont donc déployés ce matin devant le lycée Béjuy de Bron.
Oui, c'est dans la banlieue de Lyon et c'est là qu'un adolescent de 15 ans a été poignardé à l'arme blanche hier près d'une maison de quartier et près de son lycée également. Où vous êtes en direct ce matin, Vincent Chevalier, en correspondant de RMC dans la région de Lyon. Vincent Chevalier, les cours reprennent ce matin sous présence policière.
Oui, scène assez inhabituelle pour ces lycéens. Des policiers municipaux accompagnés par des membres d'une cellule d'aide psychologique accompagnent la rentrée des élèves ce matin. Les surveillants sont aussi présents avec des membres de la direction, un personnel sous le choc, encore très ému des événements de la veille. Pareil pour les lycéens comme Kevin.
Moi ça m'a un peu choqué, ma mère m'avait dit de plus venir à l'école parce que c'était un peu choquant pour elle, c'est pour ça. Ouais, elle m'a dit de faire attention. Mais bon, ça arrive très rarement. Et puis j'espère que ça arrivera plus. C'est grave que ça arrive au lycée quand même.
Hier vers 15h30, une bagarre éclate entre plusieurs jeunes. À seulement quelques pas des portes de ce lycée professionnel, l'un des jeunes sort un couteau, poignarde la victime, au moins un coup au niveau de l'aisselle avant de prendre la fuite. La victime, un élève de seconde dans cet établissement, est dans un état grave quand il est pris en charge par les secours. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.
Vincent Chevalier, en direct de Bron, donc ce matin pour RMC. C'est une nouvelle affaire de violence dans la région lyonnaise où donc la sécurité devient le sujet de la campagne des élections municipales. Autant que la question des alliances à gauche entre socialistes et insoumis. Vous savez qu'on est 10 jours maintenant après la mort du militant nationaliste Quentin Derenque. À Lyon précisément, le maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet, est candidat à sa propre succession sans le soutien des insoumis qui présentent une liste de leur côté. Mais Thomas Becker du service politique RMC, vous nous dites que c'est quand même un sujet de campagne.
Oui, le camp de Jean-Michel Aulas accuse le maire sortant Grégory Doucet de proximité avec les insoumis et la jeune garde, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement.
On sait que la majorité municipale de Grégory Doucet est extrêmement proche de ce mouvement fondé par le fichier S Raphaël Arnaud. Cette proximité avec LFI, l'extrême gauche et les écolos, c'est un retentissement tout particulier ici à Lyon.
Sauf qu'au premier tour, il y a bien une candidature insoumise, distincte du reste de la gauche, rappelle le maire de Lyon pour balayer ces accusations, mais le RN insiste sur la responsabilité politique du maire. Florian Patard est candidat dans le 9e arrondissement.
Grégory Doucet, en 2024, soutenait les candidats du Front Populaire qui avaient parmi effectivement leur propagande officielle de campagne et bien la jeune garde comme soutien.
Cerné par ses concurrents, le maire écologiste en campagne dénonce une instrumentalisation.
Il y a une enquête et un travail des enquêteurs et de la justice à respecter. Récupérer d'une façon ou d'une autre politiquement le décès d'un jeune homme de 23 ans, c'est tout simplement indécent.
Attaqué sur son bilan sécuritaire, il rappelle avoir maintenu l'armement de la police municipale et investi dès son arrivée dans la vidéosurveillance.
Et il en sera question ce soir sur BFM TV, puisqu'Apolline, ce soir sur BFM, présentera le débat avec les 4 principaux candidats dans cette ville de Lyon. Avant ça, les GG, les grandes gueules, y seront ce matin à partir de 9h en direct depuis Lyon, donc sur RMC. Et puisqu'on parle des municipales, tiens, à Marseille, la candidate de la droite, Martine Vassal, publie là, à l'instant, une photo de tag sur sa permanence de campagne à mort Vassal, voilà ce qu'il est écrit. Elle accuse l'ultra-gauche avec qui, dit-elle, le maire sortant Benoît Payan s'affiche sans gêne. C'est ce que dit donc Martine Vassal. Et c'est dans ce contexte que se tiendra à l'Élysée ce matin à 10h une réunion consacrée aux groupes violents. Autre sujet du jour, c'est le gouvernement qui cherche à faire des économies et qui a l'intention de récupérer précisément 2 milliards d'euros avec son projet de loi contre la fraude sociale et fiscale. Texte qui a été adopté et durci en fin d'année dernière au Sénat et qui sera débattu à partir de ce soir à l'Assemblée nationale. Il y a un volet qui concerne les particuliers et un autre qui concerne les entreprises et donc la lutte contre ce qu'on appelle le travail au noir, Anna Jojard.
Oui, le gouvernement a déposé un amendement pour permettre de fermer temporairement les structures qui auraient permis directement ou indirectement le travail au noir. Le projet de loi prévoit aussi la création d'une procédure de flagrance sociale. Concrètement, dès que du travail dissimulé serait détecté, les agents pourraient alors saisir les actifs à titre conservatoire. Une bonne nouvelle pour Théodore Aslamatitis, secrétaire régional du Centef-CFDT, syndicat qui représente notamment les inspecteurs du travail et qui regrette aujourd'hui des procédures qui sont souvent trop longues.
Là, les entreprises, elles ont vraiment le temps de fermer, voire de changer plusieurs fois de propriétaire avant qu'on puisse les attraper. Donc cette procédure d'accélération a supposé qu'elle arrive à bien coordonner tous les services existants pour créer une force de frappe, va évidemment dans le bon sens.
Avec de telles mesures, le ministre du Travail espère bien tripler le taux de recouvrement sur la fraude au travail dissimulé.
Il est 8h05 sur RMC. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en Ukraine ce matin. Pourquoi ? Eh bien, pour commémorer les 4 ans du début de la guerre et de l'invasion des Russes qui contrôlent désormais 20% du territoire ukrainien. À cette occasion, Volodymyr Zelensky donne une interview à la télé américaine pour demander à Donald Trump de, dit-il, rester dans le camp des Ukrainiens. Marion Gauthier, agent pour RMC, des Ukrainiens engagés dans le conflit.
Elle répond depuis un camp de formation. Marina, 40 ans, s'est engagée dans l'armée ukrainienne.
On vit sous terre parce que les camps de formation sont régulièrement frappés.
Encore quelques jours d'entraînement par moins 20 degrés, sans autre espoir que d'aller soutenir le front.
Les conditions sont devenues encore plus dures. Une connaissance vient de passer 60 jours au front. Moi, la décision, je l'ai prise en mai quand j'ai compris que ma ville natale peut aussi se retrouver sous occupation. Les Russes avancent, le soutien persiste, mais s'effrite. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a comme choix ?
L'armée russe occupe notamment une grande partie du Donbass, mais elle avance lentement, souligne le consultant Stéphane Audran, et qui a assuré ce week-end d'avoir libéré 300 km² dans le sud du pays.
Alors que depuis 2 ans, les Ukrainiens prenaient des coups sans trop pouvoir contre-attaquer, là, on voit depuis Noël des vrais mouvements de contre qui s'accumulent, et donc les Ukrainiens lancent des contre-attaques. Mais c'est vrai que sur le plan territorial, la guerre est assez stable. Ce qu'il vise, c'est à s'infliger plus de pertes que n'est soutenable par l'autre.
Une guerre d'usure, plus coûteuse, dit-il, pour la Russie. Les morts se comptent en centaines de milliers.
Deux informations aux États-Unis ce matin. D'abord, les nouveaux droits de douane de Donald Trump entrent en vigueur, ça y est, ce matin, 10% pour tout le monde. Après, ceux qui ont été mis à la poubelle la semaine dernière, le revers devant la Cour suprême concernant les précédents droits de douane. Alors, c'est pas le moment de prendre l'avion pour aller là-bas aux États-Unis avec la tempête de neige qui a balayé toute la côte Est. État d'urgence décrété dans 8 États, dont celui de New York. 6000 vols annulés hier. Il y en a déjà 2000 pour aujourd'hui. 40 millions d'Américains qui sont concernés. Chez nous, en France, il y a toujours 3 départements en alerte rouge pour les inondations. Ça fait 10 jours quand même. Et la décrue, comme prévu, est très lente. J'ai regardé ce matin dans les villes dont on parle beaucoup. Le niveau de la Charente a baissé de seulement 10 cm en 24 heures à Saintes. Une quinzaine seulement pour la Maine à Angers. Écoutez pourquoi ça prend autant de temps avec l'hydrologue Emma Aziza.
Si la décrue est lente, c'est dû au fait que vous avez énormément de petits affluents à des rivières qui se sont mises en charge donc avec des crues secondaires. Et toutes ces eaux-là sont arrivées sur le fleuve. Donc ça génère des sortes d'effets de bouchons qui, d'affluent en affluent, ont bloqué complètement les écoulements. Donc ça prend du temps. La crue était exceptionnelle. Donc il faut s'attendre à un retour à la normale qui devrait arriver pas avant au moins une bonne semaine, suivant les bassins, mais c'est extrêmement variable d'un territoire à l'autre.
Et même pas dit que ça s'accélère avec le redoux, là, soudainement, il va faire jusqu'à 25 degrés aujourd'hui au pied des Pyrénées.
Tellement fou. C'était donc le journal de Quentin Vinet.